fais connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Saint-Aventin, 94.
Et c'est avec une température de 37 degrés que nous allons entamer cette émission. J'espère que si vous êtes fragile pour la chaleur, restez bien au frais. Et n'oubliez pas, si vous avez un malaise ou si vous sentez que ça ne va pas, n'oubliez pas d'appeler absolument les voisins ou le 15 pour qu'on vous prenne en charge. Et n'oubliez pas de boire. C'est vrai que les personnes âgées n'ont pas cette sensation. Voilà, après ces quelques conseils pour éviter la chaleur. Bonjour David.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et la chaleur, il va en être question dans votre chronique aujourd'hui.
Eh bien oui, évidemment. Il fait très très chaud dans le sanctuaire de Lourdes et donc depuis hier dimanche, bien, il faut réorganiser les célébrations, se mettre à l'abri. Mais par chance, on a plein d'abris et on a l'eau qui coule à flot dans le sanctuaire de Lourdes.
Ben, vous nous direz tout ça, puis vous êtes accompagné aujourd'hui. Hein.
Ah oui, j'ai une grande chance, je suis avec des stagiaires, ils sont formidables, nos stagiaires de 3e. Il y a Stella, bonjour Stella. Qui a bien parlé dans le micro, oui. Stella. On a Martin.
Bonjour.
Et voilà. Et puis on a Colline.
Bonjour.
Et je crois qu'ils sont en seconde, pas en troisième.
Ils sont en seconde, on peut pas se tromper. Et ils ont du talent. Vous verrez tout à l'heure, ils sont allés à la rencontre des pèlerins pour recueillir des réactions avec cette canicule. On va les entendre tout à l'heure.
Tout à fait. Et puis après, on va parler aussi du pèlerinage des motards qui est parti. Mais il y a d'autres motards qui s'appellent Une Rose, un Espoir, qui chaque année vont vendre des roses aux sorties des supermarchés et des marché, eh bien, ils ont remis un joli chèque de plus de 14 000 euros à la Ligue contre le cancer. On aura son président. Et puis, on parlera aussi de deux livres qui ont été écrits pour les catéchumènes. Ce sera l'invité de Mathias Terrier dans le magazine de Passage à Lourdes. Voilà pour l'essentiel du sommaire de ce magazine. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est retrouver les titres de l'actualité. Et à mon avis, on va parler, bien sûr, de la chaleur.
L'alerte canicule est toujours de mise ce lundi avec des températures avoisinant les 40 degrés. Le Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées ont été placés en vigilance rouge, l'Aveyron et l'Ariège en vigilance orange. Pensez à vérifier vos billets de train en avance au départ de Matabiau. La SNCF a annoncé la suppression de 71 trains intercités jusqu'à demain. Sont concernés 31 trains de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et 21 de la ligne Bordeaux-Toulouse-Marseille. La mairie de Lectoure a décidé d'ouvrir gratuitement le musée archéologique aux aînés, personnes malades et fragiles. Une distribution d'eau est prévue sur place. La préfecture du Gers appelle aussi à la vigilance quant aux incendies. En cas de départ de feu ou de fumée suspecte, appelez immédiatement les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112. Même consigne dans le Lot. Après deux importants incendies de végétation survenus hier dans l'après-midi dans les communes de Marciac-sur-Célé et du Théroux, dans ce cadre de vigilance, le service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron a présenté hier à l'aéroport de Rodez son arsenal estival contre les feux de forêt, avec l'installation d'une base temporaire pour ravitailler les avions bombardiers d'eau. Comme chaque année, qui dit arrivée de l'été dit nouveaux horaires pour les déchetteries et les collectes de bacs à ordures, à partir de demain, une partie du département de l'Ariège, allant de Lézat-sur-Lèze à Villeneuve-d'Ols en passant parfois, passe aux horaires d'été.
Présence à Saint-Céré, 95-8.
Un grand merci à Clémence Roux, qui est étudiante à l'école du journalisme de Toulouse, qui nous présente l'actualité. On la retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Avec vous, David Torchala, eh bien, on vous retrouve pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et on l'a entendu dans l'actualité, il fait chaud, il fait même très chaud.
Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud, je vous le disais avant les titres. Évidemment, il faut que le sanctuaire se réorganise, s'adapte, parce que il y a de fait du monde. Effectivement, il y avait plus de 1000 motards ce week-end pour le pèlerinage annuel des motards à Lourdes. Alors, il y avait du bruit, mais il y avait pour le coup un peu de sueur pendant ce pèlerinage. Et puis, ça continue avec notamment, nous avons la présence du principal des groupes. copain de pèlerinage, c'est le pèlerinage de Lille. Ils sont plus de 4000 pèlerins, dont plus de 600 personnes malades. Et on peut le dire, c'est quand même rude, hein, le pèlerinage sur cette période. Mais ils sont vraiment, toutes ces personnes malades, fragiles, sont accompagnées par des hospitaliers, par du personnel soignant, donc pour être là à leur côté, prendre soin, pouvoir s'hydrater, se mettre à l'abri, etc. Et pouvoir regagner aussi les établissements médicalisés du sanctuaire et de Lourdes. Et donc, tout se passe plutôt bien, mais il faut évidemment réorganiser les choses. Alors, le pèlerinage de Lille, pour prendre cet exemple-là, mais ils sont d'autres bien plus nombreux, eh bien, ils ont choisi de prendre pour refuge la basilique souterraine Saint-Pédis. C'est incroyable d'avoir cette chance d'avoir une des plus grandes basiliques du monde, la basilique souterraine Saint-Pédis, qui fait 200 mètres de large, et on peut rentrer à plus de 20 000 personnes à l'intérieur, ben, a été conçue, hein, dans cet esprit déjà à l'époque, comme refuge des pèlerins. Alors je pense qu'à l'époque, on pensait beaucoup des intempéries. Alors évidemment, il pleut aussi à Lourdes, enfin là, pas trop ces derniers temps, mais la canicule, évidemment, est aussi un moyen, en tout cas, à la basilique souterraine de pouvoir en être épargné. Il y a évidemment ces pèlerins qui sont là de manière organisée, puis on va les entendre, hein, parce qu'on a nos stagiaires avec nous qui sont allés à la rencontre des pèlerins de Lille, mais il y a aussi tous les autres, tous ceux qui viennent et qui poussent la porte du sanctuaire, et donc pour lequel il faut aussi s'adapter. Vous voyez, par exemple, comme mesure, les chapelets de l'après-midi, ceux que vous aimez entendre en français à 15h30 chaque jour sur Radio Présence, mais qui sont dits également en anglais, en espagnol, en italien, eux sont toujours prononcés à la grotte, avec juste le chapelain et quelques répondants, et puis pour le public qui le souhaite, nous avons ouvert l'hémicycle du sanctuaire pour pouvoir être resté au frais, de pouvoir prier tous ensemble le chapelet. Et puis il y a aussi évidemment ces visites que nous organisons chaque après-midi, les pas de Bernadette, pour le coup on les a annulés, et donc il sera pas possible, en tout cas depuis hier, aujourd'hui et encore les jours de canicule, de pouvoir être accompagné sur les lieux de vie de Bernadette, même s'ils demeurent ouverts. Mais les équipes du centre d'information proposent la diffusion gratuite d'un film documentaire sur Lourdes, sur la naissance du sanctuaire, toute l'histoire de la construction du sanctuaire. Ça dure 40 minutes au frais, dans des salles de projection, gratuites, et voilà. Je ne peux pas être plus invitant que ça pour venir à Lourdes cette fois, parce qu'effectivement, il faut venir jusqu'ici, et c'est peut-être pas très raisonnable de sortir de chez soi, mais en tout cas, pour ceux qui avaient prévu d'être là, ils sont choyés, ils sont soignés. Je voudrais qu'on ait quand même une pensée particulière pour les feutiers. Ce sont nos collègues qui travaillent et qui recueillent les cierges qui sont déposés par les pèlerins. Ils souffrent de la chaleur, nos chers feutiers. Ils ont un petit cabanon tout près des chapelles de lumière climatisées. Et donc on a vraiment cette extrême vigilance pour tout le personnel qui est en extérieur, et la vigilance aussi des gardes du sanctuaire, oui, qui donnent aussi évidemment les conseils de se couvrir la tête, et en tout cas d'aller dans les points frais. Il y en a, hein, il y a plein de lieux climatisés, vous savez, naturellement à Lourdes, avec 3 basiliques, 25 chapelles, et puis une source qui coule évidemment abondamment.
Donc on peut
malgré tout se rafraîchir.
Alors David, vous avez confié une petite tâche à nos stagiaires, et ils sont partis braver la chaleur ce matin pour faire un micro-trottoir.
Exactement, hein, c'était aux heures les plus fraîches quand même de la journée. Bah oui, parce qu'on s'était engagé la semaine dernière, on avait dit tiens, avec nos stagiaires, on va les faire travailler. Et donc ils sont allés à la rencontre des pèlerins de Lille, voilà, tout près de la basilique souterraine, pour le coup Saint-Pédis. Et ils sont au micro de Stella et de Martin. Vous avez rencontré Stella et Martin. Emma, c'est ça, 22 ans, Stella?
Oui, c'est ça.
Tu fais le lancement, tu proposes qu'on l'écoute? Eh ben alors on y va.
On y va et on écoute. Et Emma, c'est un joli prénom pour Lourdes. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Bonjour, je m'appelle Emma Jarry, j'ai 22 ans et je viens de Lille.
Pourquoi êtes-vous venue à Lourdes?
Pour offrir mes services, aider les gens qui en ont besoin.
Et qu'est-ce que vous aimez ici au sanctuaire?
La fraternité, la bienveillance des gens, le fait que tout le monde est disponible pour aider et s'entraide à n'importe quel moment, quoi.
Est-ce que c'est votre premier pèlerinage à Lourdes, ou est-ce que vous êtes déjà venu ici?
Je suis déjà venue ici une fois avec le diocèse, avec le train jaune, et une fois avec les scouts.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis venue avec les scouts et que j'étais responsable d'une malade avec une de mes coéquipières et qu'on l'a emmenée au-dessus de la basilique et elle a pleuré tellement, c'était beau. Donc voilà, c'est ça et ça m'a marqué.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir pour accompagner des malades ?
Bah, de donner de mon temps et de voir leur sourire, enfin leur quotidien pas forcément simplifié, mais aider à le simplifier, à le rendre meilleur et de mettre un peu de joie dans leur vie qui n'est pas forcément facile de temps en temps, quoi.
Emma, 22 ans de Lille, ben voilà, elle nous dit que la chaleur, elle est bien là, mais elle ne prend pas le dessus sur l'essentiel. Alors, Martin, il y a eu une autre rencontre, de qui s'agit-il ?
Notre rencontre, c'est de Jeanne.
C'est Jeanne. Jeanne, elle a 23 ans, elle est aussi pèlerine de Lille.
Oui.
Et on l'écoute ?
Ben oui.
Allez, on y va.
Moi, je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans. Bah, je suis à Lourdes pour le PLE du diocèse de Lille.
Et qu'est-ce que vous aimez à Lourdes ?
À Lourdes, déjà, il fait toujours hyper beau par rapport au nord de la France. Donc ça, c'est top. Surtout même très, très chaud. Et moi, j'aime bien parce que c'est vraiment une espèce de micro-ville où t'oublies tout, où t'arrives pour aider les autres, pour mettre toute ta vie de côté et pour vraiment... te concentrer sur juste ce qui se passe à Lourdes et c'est fatigant mais en même temps tellement reposant de ta vie de tous les jours à côté.
Est-ce que c'est votre premier pèlerinage à Lourdes ou est-ce que vous êtes déjà venu ?
Non, c'est mon cinquième. Donc je viens tous les ans et j'essaye de jamais rater ça parce que, enfin depuis 5 ans parce que c'est vraiment, ça m'apporte trop. J'ai toujours mes petits rendez-vous.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Je pense que c'est pas, il n'y a pas de moment. Si, il y a eu des drames, il y a eu des trucs qui ont marqué forcément tous les esprits. Mais je pense que c'est surtout toutes les personnes qui sont hyper présentes. Et dès qu'il y a un petit problème, parce qu'il y a des problèmes partout, mais comme dans la vie, il y a toujours 4-5 personnes qui accourent pour venir t'aider, pour venir te soutenir, même si les gens ils connaissent que ton prénom, pas du tout ta vie de tous les jours. Et ici, on a le droit de pleurer pour tel ou tel problème sans forcément avoir besoin d'en parler et avoir quand même 4 épaules sur lesquelles se reposer, quoi. Donc, c'est ça qui est top.
C'est ça qui est top, nous dit Jeanne de Lille. C'est vrai que c'est beau, vous travaillez bien là, les stagiaires, elles sont bien les questions. Stella, on écoute le dernier interview de qui allons-nous entendre ?
Il s'agit de Françoise, c'est une personne âgée qui est aidée par les hospitaliers et elle vient de Bailleul. Et c'est une habituelle, c'est son 37e pèlerinage ici à Lourdes.
Allez, on l'écoute.
Françoise Lazor, Bailleul.
Et vous venez d'où ?
Bailleul, Nord.
Et pourquoi êtes-vous venue ici à Lourdes ?
Ah, c'est une ressource pour nous. Venir à Lourdes tous les ans, c'est recharger nos batteries parce qu'on a obtenu tellement de grâce du Seigneur et de la Vierge qu'on tient tant qu'on peut. Et grâce à l'aide des brancardiers et des hospitalières qui nous aident, on tient à venir remercier le Seigneur et la Vierge.
Et vous venez depuis combien de temps à Lourdes ?
C'est mon 37e pèlerinage avec le train rose. Sinon, j'étais venue 2 fois avant.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ici ?
C'est tout. C'est les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. C'est tellement beau. Moi, je les appelle notre bouquet de fleurs. C'est tellement beau. Et ils l'oublieront jamais, jamais. Ils reviendront peut-être qu'à Lourdes dans 10 ans, dans 15 ans. C'est rien. Mais un jour, ils reviendront. Mais chez eux, toute leur vie, ça leur restera.
Les jeunes, le bouquet de fleurs de Françoise. C'est beau.
Est-ce
ce
que ça vous a fait du bien, David, d'écouter les gens du Nord ?
Mais oui, ben vous savez, ils se moquent tous ici à l'antenne avec mon accent. Mais vous savez, je suis originaire du Nord. Ah mais non, mais quand je vais dans le Nord, on me dit que j'ai l'accent du Sud, vous savez. Et inversement, quand je suis ici,
C'était pas une moquerie. Hein. Non, au contraire.
Non, c'est beau. 3 témoignages, 3 voix. Et c'est vrai, plutôt une même réalité.
Donc, et pour ces jeunes, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été faire un micro-trottoir, avoir rencontré les gens et puis, là, entendre les interviews que vous avez réalisées qui passent à la radio et que tout le monde les entende.
Martin ?
Si, c'était très, très émouvant d'entendre ces personnes parler et de les voir faire leur pèlerinage.
C'est beau. Et pour toi, Stella ?
C'était une très belle expérience d'entendre leurs témoignages.
Moi, j'ai envie de dire qu'on en veut un peu plus hein, de témoignages parce qu'en fait, on a Colline qui vient de rejoindre cette dernière semaine de stage. Hein, Colline ?
Oui.
Est-ce que ça t'a donné envie d'aller toi aussi à la rencontre des pèlerins ?
Ah oui, ça a l'air d'être une chouette expérience à vivre et ça me donne envie pour cette semaine.
Eh ben très bien, donc le rendez-vous est pris lundi prochain, on recommence.
On aura d'autres.
Peut-être plus des Lillois pour le coup, parce que eux seront repartis, mais en tout cas voilà, on le voit bien, à Lourdes, la canicule, ça impose des adaptations, de la prudence, de la vigilance, mais voilà, ça ne retire en rien à l'essentiel du pèlerinage.
Voilà pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous l'avez rappelé, David, et effectivement, on est peut-être en vigilance rouge, mais il y a des lieux de fraîcheur au sanctuaire naturel, comme vous l'avez dit, les églises, les basiliques. Donc, si vous êtes dans le secteur, ben, venez aussi un moment de ressourcement, de prière et au frais.
Et puis, ce soir, comme tous les soirs, 21h, procession mariale au flambeau. Il fait vraiment meilleur à cette heure-ci. Donc, voilà une belle occasion de venir à Lourdes en soirée.
Voilà. Alors, le pèlerinage de motards était là ce week-end. Eh bien, moi, je vous propose d'autres motards. Il s'appelle Une Rose, un Espoir. C'est une grande chaîne nationale. Il y a des associations un peu partout en France. Et chaque année, au mois d'avril, ils vont vendre des roses. Voilà, pour un prix symbolique. Et puis, ils font les marchés, ils font les supermarchés et des gens achètent. Et cette année, pour le comité des Hautes-Pyrénées, c'est un chèque de plus de 14 000 euros qui a été remis à la Ligue contre le cancer. Voilà, c'est une belle opération quand les motards, avec tous les bénévoles, eh bien, font cette partie. Et il y avait la remise du chèque, donc officiel, à la commune de Bénac. Et nous y étions. Radio Présence était là pour cette remise de chèque. Et on a le président au micro. Voilà, pour Une Rose, un Espoir, ça fait du bien aussi d'avoir des choses positives.
Ah oui, ça c'est vrai. Ils sont beaux, ils ont grand cœur, ces motards.
Voilà, tout à fait. Et on pense bien sûr au pèlerinage qui vient de se conclure au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis toujours cette belle image de la moto qui amène le cierge à la grotte.
Ah oui, ça fait partie des grands temps de ce pèlerinage. Tous ces motards qui viennent confier, tous ceux qui sont morts sur la route toute l'année. Et d'amener,
la grande bénédiction.
Et d'amener exactement ce grand cierge à la grotte. Et puis chaque équipage est béni aux portes du sanctuaire avec de l'abondance. Hein. Il en faut de l'eau là, hein, sur les casques et les visières. Voilà, de très belles images que vous pourrez retrouver sur le site internet du sanctuaire de Lourdes.
Et bravo aux organisateurs de ce pèlerinage qui sont lourdés.
Exactement, et je suis sûr qu'ils seront aussi là l'année prochaine, parce qu'ils ont une grande fidélité.
Allez, à la semaine prochaine, David Torchala, et puis à très vite, donc, nos stagiaires qui sont là et qui nous écoutent. Merci pour le travail accompli. Allez, moi, je vous emmène du côté de Bénac.
Radio Présence, dans la vallée du Lot, 92.5.
Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir de venir à votre invitation pour la remise du chèque officiel donc à la Ligue contre le cancer, une partie des dons qui ont été donc collectés pendant cette grande campagne de vente de roses dans tout le département des Hautes-Pyrénées, enfin une partie tout loin. Le chèque est de plus en plus gros chaque année.
Oui, encore une fois, il a été augmenté par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que les gens ils nous attendent de plus en plus et font des dons qui sont conséquents. Malgré les difficultés que tout le monde rencontre actuellement, c'est vrai qu'on était assez surpris et agréablement surpris de ces dons qui étaient toujours présents.
Mmh. Alors, peut-être un rappel, Une Rose, un Espoir, c'est quoi ?
Une Rose, un Espoir, c'est une association de motards donc qui a été créée dans l'Est de la France il y a 25 ou 27, 28 ans maintenant. Qui avait pour but de récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer. Donc la Ligue contre le cancer. Donc cette association elle fait des plis un peu partout et en 2015, Bernard Couder et quelques amis motards à lui ont décidé de créer l'association des Hautes-Pyrénées. Donc depuis 2015, donc une rose en espoir existe dans les Hautes-Pyrénées. Voilà.
Vous êtes une antenne de ce qui se fait au niveau national, quoi.
C'est ça. On est une association indépendante, mais on répond à la charte de Une Rose, un Espoir, et etc. Et le chèque de toutes les associations locales est comptabilisé pour faire un chèque officiel remis à la Ligue contre le cancer au niveau national. Donc l'an dernier, il y avait eu un montant de plus de 2 600 000 euros. Donc on verra si cette année on va réussir à le battre encore.
Alors le concept c'est tout simplement vendre des roses.
Proposer des roses aux gens contre un don minimum de 2 euros.
De 2 euros.
De 2 euros,
voilà. Voilà. Alors avant tout cela, d'abord, il faut arriver à avoir les bénévoles, c'est-à-dire les motards, oui. Mais également donc s'approvisionner en roses. Oui. Et puis, une fois que vous avez les roses qui arrivent par camion, le travail ne s'arrête pas là.
Ah non, parce que les roses, pour pouvoir leur permettre de rester belles pendant quelques jours, donc quand on reçoit les roses, donc généralement, on les reçoit le mercredi ou le jeudi avant l'événement. Donc la première opération qui est faite par les bénévoles motards et pas motards, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas motards, c'est de couper les queues des roses et de changer l'eau des bacs. Donc on renouvelle l'eau et on change. Après le vendredi, eh ben toutes les roses sont mises individuellement dans des cravates avec le logo d'une rose un espoir, de façon à avoir une présentation plus pop et pour éviter que lorsqu'on propose la rose aux donateurs, les gens se piquent les mains ou n'importe quoi. Donc la cravate valorise l'association et protège la rose encore.
Voilà.
Et après le samedi et le dimanche, mais généralement là depuis quelque temps on arrive à écouler toutes les roses que le samedi, dans le samedi. Donc le samedi, tous les bénévoles partent de Bénac et on se répartit sur 9 secteurs maintenant, un peu partout dans la Haute-Pyrénées.
Donc, il y a Lourdes.
C'est le marché de Lourdes. Non, c'est le Leclerc de Lourdes, du Méridien, dans l'Aix. C'est le marché de Bagnères, c'est le marché de Vic, c'est l'Intermarché de Julian, c'est l'Intermarché Route de Bordeaux, l'Intermarché à Orient, c'est le marché Brovan le samedi matin. Et après, c'est le Leclerc de l'Ormeau le samedi après-midi. Et je pense que... Et cette année, il y avait aussi le secteur Kaut, les langues qui étaient avec vous.
D'accord. Et donc, bien sûr, c'est les gens répondent présents et ils achètent votre rose et parce qu'ils savent que c'est pour le cancer, quoi.
Oui. Nous, tout notre événement est associé à la Ligue. Donc, on a toujours... Soit les deux logos sont toujours très proches l'un de l'autre, quoi.
C'est peut-être aussi une fierté pour vous. Vous êtes Annette Cuc, la présidente de la Ligue contre le cancer pour les Hautes-Pyrénées, l'a dit tout à l'heure. Vous êtes le deuxième plus gros chèque que la Ligue départementale reçoit.
Oui, on en est très heureux, mais c'est grâce à tous les bénévoles et tous les donateurs qu'on a. C'est pas nous qui faisons ça. C'est les gens qui nous proposent, qui nous donnent les dons, qui permettent d'être le deuxième donateur de la Ligue et on en est fiers. Mais, on va essayer d'être le premier un jour.
Vous avez rendu hommage à deux personnes aujourd'hui avant cette remise de chèque que vous orchestrez toujours de façon de main de maître. Voilà. La première, mais c'est une chanson qui est née et qui n'a pas été chantée, mais que vous avez passée. Et cette chanson, racontez-nous un peu l'histoire.
Et cette chanson, c'était deux personnes qui ont une entreprise d'événementiel et de création de chansons, etc., qui sont basées à Lourdes, qui un jour nous ont contactés en nous proposant de faire une chanson pour l'opération Une Rose, un Espoir. On leur a dit oui. on était très, très heureux de cette proposition et lorsqu'ils nous ont envoyé le premier rush, ou je sais pas comment on dit, le premier essai de la chanson, c'est vrai qu'on était tous très, très, très émus parce que, ce que raconte la chanson, c'est exactement ce qu'on vit nous tout le temps, quoi. Lorsqu'on part le matin, même s'il fait froid, même s'il pleut, eh ben c'est dans l'espoir de récupérer des dons pour la Ligue.
Voilà. Donc le beau temps est au rendez-vous ce week-end. Il a fait le week-end des roses.
Ouais, il a pas fait mauvais. Il n'a pas fait trop chaud, mais c'était très bien. C'était... Pour une fois, on n'a pas eu de pluie. Donc,
par contre, les remises de chèques, il fait toujours très chaud. Hein.
Ça, c'est
plutôt la même chose. Et puis le deuxième, on va terminer par ça, c'est bien sûr Bernard Couder, que vous avez rendu hommage, qui ne peut pas être là à cause de la chaleur. Oui.
Bernard Couder, donc, qui est à l'origine de l'association, parce que c'est lui qui a connu Une Rose, un Espoir. Donc, et Bernard, c'était un motard... Qui avait la moto dans le corps et qui a associé à quelques années motards a décidé de se lancer en partant de rien, de se lancer dans la Rose d'un Espoir au Pyrénées. Et ils ont commencé ça en 2015. Donc au début c'était un peu dur, mais maintenant je pense que on commence à être, grâce à tout le travail qui a été fait par tous les bénévoles, donc on commence à être connu un peu et les gens commencent à nous attendre le dernier week-end du mois d'avril, généralement.
Voilà. Et puis, on termine. Si des gens veulent gonfler le rang des bénévoles, comment on peut faire pour venir vous rejoindre?
Donc, il ne faut pas hésiter. On a une page Facebook, donc Une Rose d'un Espoir, Haute-Pyrénées 65, ou Une Rose d'un Espoir 65. Demandez, c'est une page fermée, mais il faut demander à rentrer dessus et on accepte tous les gens. Et après, pour venir nous aider, eh ben, faut simplement être là, être présent. Nous, l'objectif, c'est pas d'être hyper performant, c'est passer un bon temps, un bon moment. Et c'est vrai que à chaque fois, à chaque opération, donc on prend en charge les repas des bénévoles, on fait les cafés, et il y a le samedi soir, il y a toujours le grand repas qui a lieu généralement à la salle des fêtes de Bénac. Et qui est accompagné d'un groupe musical. Cette année, on avait un groupe de musique celtique qui nous a fait qui nous a animé une superbe soirée. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il faut que la bonne volonté et voilà. Puis la bonne humeur.
Et la bonne.
C'est les seules conditions qu'on peut demander aux gens pour venir nous aider.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers. J'ai pas tiré mon numéro, j'suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre.
À Tarbes et Lourdes, 96.
12h30, on retrouve l'actualité de la mi-journée en compagnie aujourd'hui de Clémence Roux de l'École du journalisme. Bonjour Clémence, et je pense qu'on parle de la canicule.
Bonjour à toutes et à tous. L'alerte canicule est toujours de mise ce lundi avec des températures avoisinant les 40 degrés. Le Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées ont été placés en vigilance rouge, l'Aveyron et l'Ariège en vigilance orange. Certaines préfectures ont déposé des arrêtés interdisant toutes les manifestations sportives de plein air, sauf dans des salles climatisées, ainsi que les activités nautiques et les piscines. Pensez à vérifier sur les sites départementaux. À Toulouse, les fortes températures ont causé une hausse de la pollution de l'air. Il est donc conseillé de réduire sa vitesse sur la route et de limiter les activités en extérieur. Les Hautes-Pyrénées ont également subi ce phénomène de poussière désertique. Selon l'agence de surveillance Atmo Occitanie, il devrait s'atténuer d'ici demain. Pensez à vérifier vos billets de train en avance au départ de Matabiau. La SNCF a annoncé la suppression de 71 trains intercités jusqu'à demain. Sont concernés 31 trains de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et 21 de la ligne Bordeaux-Toulouse-Marseille. La mairie de Lectoure a décidé d'ouvrir gratuitement le musée archéologique aux aînés, personnes malades et fragiles. De la même manière, les salles de la mairie seront également accessibles à ces publics. Les élus seront présents et de l'eau sera mise à disposition. À noter que la cathédrale reste également un lieu de fraîcheur ouvert à tous. La préfecture du Gers appelle aussi à la vigilance quant aux incendies avec des règles simples. Ne jetez jamais de mégots au sol ou par la fenêtre de votre véhicule. Pas de barbecue, de feu à proximité d'espaces naturels ou de stationnement en zone sèche. Enfin, pas de stockage de produits inflammables près des habitations ou des zones boisées. En cas de départ de feu ou de fumée suspecte, appelez immédiatement les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112. Même consigne dans le Lot, après deux importants incendies de végétation survenus hier dans l'après-midi, à Marciac-sur-Célé, 25 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Plus de 2 hectares ont été ravagés. Le site reste sous surveillance face au risque de reprise. La ville de Théroux a également été touchée par un incendie d'environ 3 hectares. 17 pompiers ont été mobilisés, sans blessés ni dégâts graves sur les bâtiments voisins. Dans ce cadre de vigilance incendie, le service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron a présenté hier à l'aéroport de Rodez son arsenal estival contre les feux de forêt. Cette année, les grands moyens sont de sortie, avec l'installation d'une base temporaire pour ravitailler les avions bombardiers d'eau. Enfin, comme chaque année, qui dit arrivée de l'été, dit nouveaux horaires pour les déchetteries et les collectes de bacs à ordures. À partir de demain, les équipes du SMECTOM de Plantorel, en charge de la collecte des déchets sur une partie du département de l'Ariège, allant de Lézat-sur-Lèze à Villeneuve-d'Olme en passant parfois, passent aux horaires d'été. Concrètement, pour les particuliers, deux changements seront mis en place, les horaires d'ouverture des déchetteries et l'heure de passage du service de récolte des ordures dans les bacs individuels.
Merci beaucoup à Clémence Roux qui fait donc ses études à l'école de journalisme de Toulouse, qui est en notre compagnie pour ce journal de la mi-journée. Puis le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. On va parler de catéchuménat aujourd'hui. L'invité de Mathias Terrier aujourd'hui est Guillaume-François Salin. Il nous parle tout simplement de deux livres qu'il a écrits pour les catéchumènes avant de se faire baptiser et après s'être fait baptiser. On écoute De Passage à Lourdes.
Présence. De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder modestement la question assez fondamentale qui traverse l'Église, ce grand mouvement de catéchuménat, de demande de baptême dans l'Église de la part des adultes. Et nous sommes en compagnie de Guillaume-François Salin.
Bonjour.
On vous doit deux ouvrages aux éditions de l'Emmanuel, pour toi qui demandes le baptême et pour toi qui as reçu le baptême. Nous parlerons largement de ces ouvrages dans la deuxième partie de cette émission parce que vous nous permettez de toucher du doigt ce que j'ai appelé un mouvement de fond qui bouscule positivement l'Église catholique, toutes ces demandes de baptême. Mais auparavant, j'aimerais que nous parlions de votre histoire. Guillaume-François Salin, au fond, les titres de ces ouvrages pourrait parler directement de vous. Pour vous, Guillaume-François Salin, qui avez demandé le baptême, et pour vous, qui avez reçu le baptême. Parce que vous avez vécu, à l'âge de 18 ans, une conversion à Lourdes. Et alors, cette histoire-là, évidemment, on a envie de l'entendre de votre bouche. Vous venez régulièrement, dorénavant, dans ce grand lieu de pèlerinage. Vous nous parlerez de vos missions actuelles. Vous êtes formateur, vous êtes formé en théologie, vous avez aussi une formation en psychologie. Vous avez un cabinet
Tout à fait.
Dans lequel vous recevez des personnes pour les conseiller, les accompagner sur terrain de la psychologie. Et puis vous vous occupez de jeunesse. Vous êtes adjoint en pastoral dans un établissement, dans un lycée. À 18 ans, pourquoi, Guillaume-François Salin, venez-vous à Lourdes alors même que vous n'êtes pas baptisé ?
Je pense que j'avais déjà une recherche spirituelle au sens très large du terme, c'est-à-dire que je regardais un peu tous les courants, toutes les différentes religions, aussi les courants un peu philosophiques, spirituels, et j'ai fini par lire l'Évangile, et c'est le seul ouvrage avec lequel j'ai vécu une expérience spirituelle forte en lisant Matthieu, là où Jésus dit dans la continuité de son discours sur la montagne, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et donc j'ai senti la présence vraiment vivante et réelle du Christ. C'est vraiment pas des concepts, j'ai vraiment senti présent là où je lisais des grandes figures comme le Bouddha ou autre, et c'était beau, c'était inspirant, mais voilà, j'avais pas vécu cette présence vivante et agissante encore aujourd'hui. Et donc j'ai continué à poursuivre, et j'étais vraiment passionné par la question du Christ, parce que moi j'étais un peu neutre, hein, j'ai pas vraiment été éduqué dans la foi chrétienne. Moi, la question de Dieu jusqu'à mes 15-16 ans, elle était absente en fait, hein. Et finalement j'en parlais tellement à travers les associations que je faisais, que je rencontrais beaucoup de catholiques engagés dans des associations qui ne parlaient pas forcément de Dieu, mais quand moi je parlais de Dieu, bah finalement ils en parlaient avec moi. Et au bout d'un moment, j'étais tellement, je pense, fatigant, on va dire, qu'on m'a conseillé d'aller voir un prêtre, très gentiment, voilà, pour échanger sur toutes mes questions. Le prêtre, lui aussi, sentant qu'il n'arriverait pas à s'en défaire, il m'a dit « Tu devrais aller à Lourdes t'occuper de personnes handicapées. Y a un pèlerinage chaque année. » À l'époque, c'était avec l'hospitalité landaise. J'étais vraiment curieux et en même temps étonné de me dire, ah bah tiens, les catholiques, ils font des choses, quoi.
Au fond, ce prêtre, il ne répond pas à vos questions, il vous dit, va voir ce qui se passe là ou là.
Alors, il a essayé au début de répondre à quelques questions, puis je pense qu'il a vu qu'il y avait une, pas une fermeture, mais qu'il y aurait pas de, que ça permettrait pas d'aller plus loin, quoi. Et donc, en effet, là, il se dit, bah, je pense, hein, il faut qu'il vive une expérience de foi à Lourdes, et donc j'y vais, et voilà, j'ai vécu quelque chose de vraiment très fort là-bas.
Et donc, ce que vous vivez à Lourdes, vous pourriez nous le décrire? Vous avez 18 ans, toutes ces questions en tête, plutôt intellectuel, on l'a
voilà,
compris.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Bon, vous venez de faire paraître deux ouvrages successivement, un troisième étant en préparation. Bon, vous êtes un homme de la réflexion. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est va voir, mets les pieds dans la glèbe. Parce qu'à Lourdes, il y a une espèce de belle glèbe de chrétiens qui mettent la charité en acte.
Exactement. Je pense que au début, les premières expériences, j'y allais curieux et en même temps assez réfractaire, assez rebelle, comme un adolescent, jeune adulte peut l'être. Et aussi, je repérais un peu toutes les failles assez rapidement. Je voyais un peu le manque de conviction, de connaissances des autres jeunes de mon âge. Mais finalement, petit à petit, avec l'ambiance du sanctuaire, le contact avec les malades, cette foi simple, vécue, concrète, incarnée, avec des gestes, je me suis laissé un peu emporter. Et mon cœur s'est de plus en plus ouvert, et je pense que c'est vraiment le contact avec une personne handicapée qui était retardée mentale qui m'a aidé à basculer, voilà, qui a fait vraiment la bascule en me demandant de l'accompagner dans les eaux de Lourdes. Donc je peux vous raconter si vous voulez.
Ah oui, racontez-nous. Oui.
Voilà le moment. Alors bon, déjà il faut savoir que moi, ne lisant que la Bible, j'avais un a priori sans le savoir protestant plutôt, donc j'avais plutôt un rejet de la Vierge Marie dans le sens de la prier. Donc ça, j'étais un peu fermé dans le sanctuaire, je comprenais pas la piété mariale, ouais, j'étais un peu en distance. Moi, c'était vraiment que Jésus. Et donc, il se trouve que les eaux de Lourdes, c'est quand même lié à l'apparition de la Vierge Marie, hein, j'avais compris, donc je voulais pas trop aller me baigner dans les eaux. À l'époque, c'était des immersions complètes encore. Donc, j'étais un peu distant. Et cette personne avec qui je m'entendais bien me dit qu'il voulait que je l'accompagne dans les eaux de Lourdes. Je lui réponds très gentiment non. Il insiste, on s'entendait bien. Hein, et il insiste, je me dis, bon, je serais quand même horrible de pas l'accompagner. Donc, je l'accompagne. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a tiré progressivement. Pour ceux qui voient, devant les piscines, il y a des espèces de bancs où on attend et où on prie le chapelet souvent. Et en fait, sur ce banc-là, je lui disais, bah, je t'attends là. Et puis après, il me dit, bah, est-ce que tu peux m'accompagner à l'intérieur? J'ai un peu peur. Et du coup, après, j'ai encore avancé juste avant les rideaux, la piscine, je l'ai accompagné là. Et je lui dis, bah, je t'attends l'extérieur de la piscine. Et il insiste encore, il me dit non, mais juste devant les bains, est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que lui, ça m'a marqué, hein, il était vraiment, il vivait ça intensément, quoi. Il y avait une forme de gravité, de peur et en même temps de joie. C'était très impressionnant. Et du coup, je lui dis bon, ok, je t'accompagne devant, je serai avec toi, mais je ne me baigne pas. Et après, on est devant et vous savez, on commence à se préparer. Hein, pour ceux qui savent, hein, on y va nu hein, quand même. Hein, on met une serviette, hein, mais voilà, il y a ce moment-là très solennel. Et cette personne me dit au dernier moment, bah tu vas te baigner quand même avec un regard. Et là, je me dis non, mais
je peux pas reculer.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut que j'y aille parce que là, il m'a vraiment. Puis c'était pas une obligation. C'était tu vas te baigner quand même. Et là, je me dis, bon, j'y vais. Et l'expérience que j'ai vécue, elle m'a marqué parce que, alors, les plongeons totales, en fait, ça dure qu'une seconde. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est vraiment. Ça dure à peine une seconde. Donc, rationnellement, on n'a pas le temps d'imaginer quelque chose. Enfin, vraiment, on se baigne, on est ressorti, quoi. Et là, à ce moment-là, je suis comme sorti de mon corps. J'étais comme dans un environnement où il faisait tout noir. C'est pas de l'obscurité, mais c'est pas comme si je voyais ça avec mes yeux. Mais j'étais dans un lieu un peu hors du temps. Et il y avait au-dessus de moi la Vierge Marie et Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que je savais où j'étais. J'étais pas au paradis, mais je disais à l'époque, j'étais comme au paradis. Comme. Vous voyez, donc j'avais bien une notion que c'était pas le paradis non plus. Et puis j'étais face à Jésus et je me rappelle la première chose que je lui dis, c'est trop triste, c'est trop moche ici-bas, emporte-moi. Comme si en fait je savais où j'étais, face à qui j'étais, et je lui disais ben emporte-moi, j'ai pas envie de revenir. Et du coup la réponse, il m'a pas répondu avec des mots, mais c'est comme ça m'a répondu intérieurement, c'était non. Et j'ai pas été triste, je l'ai accepté calmement. Et puis après spontanément je lui dis bah je te donnerai toute ma vie, voilà je te donnerai vraiment toute ma vie. Et je suis resté là-dessus et puis je suis revenu dans mon corps complètement hagard. Ce qui était assez étonnant, c'est que tout le reste du pèlerinage, j'étais un peu souriant bébête. Vous voyez, un sourire un peu bébête qui ne me ressemble pas. Hein, voilà, j'étais un peu plus sur la réserve. Et là, j'étais tout souriant, voilà, un peu, excusez-moi du terme, shooté, enfin, dans un peu sur une autre planète, quoi. Et malheureusement, ça c'était pendant le pèlerinage, parce que je m'en rappellerai, hein, quand on prend les bus pour sortir et qu'on sort de Lourdes, je ressens l'angoisse revenir. L'angoisse de me dire, je vais revenir dans mon quotidien, qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Parce que moi, j'ai pas d'entourage chrétien en fait, hein, donc j'ai personne à qui te parler de la foi. Il y avait mon père qui était ouvert, hein, qui va se faire baptiser après moi. Il était ouvert, on pouvait changer, mais il n'était pas pratiquant, il était lui-même pas baptisé, donc c'était. Ouais, on a des belles discussions, mais ça allait pas plus loin que ça pour une pratique, une vie religieuse. Donc voilà. Et je pense que j'ai eu un début de guérison à Lourdes parce que j'avais une vie difficile. Et c'est pour ça que je lui avais dit que je voulais pas revenir. Voilà, moi, je me rendais compte de la méchanceté des hommes, des femmes, de la propre méchanceté dans mon cœur, des limites du monde. Et le parallèle avec Lourdes où tous les gens sont. C'est assez exceptionnel, quoi, cette gentillesse, cette ouverture. Puis le monde de tous les jours où les gens peuvent être durs, hein, même les jeunes de mon âge. Donc voilà un peu cette expérience. Puis après, je suis revenu, je pense, tous les ans. Là, cette année, je suis venu, pour vous dire, 4 fois à Lourdes.
Donc, vous aviez 18 ans. Depuis 12 ans, vous ne cessez de revenir à Lourdes. Vous avez beaucoup avancé, puisque vous avez reçu le baptême, vous avez écrit ces ouvrages pour vous adresser à ceux-là même qui le demandent aujourd'hui.
Exactement.
Donc, pour toi qui demande le baptême, et puis pour toi qui a reçu le baptême, c'est-à-dire comment ne pas rentrer dans ce trou d'air, hein, qui peut faire qu'on s'éloigne de nouveau de la vie spirituelle et de la vie de l'Église. Pour rester sur l'expérience de Lourdes, vous parliez de l'eau de Lourdes, donc qui a été découverte à l'indication de la Vierge Marie, hein, au creux de la grotte, qui a dit à Bernadette, allez boire à la source et vous y lavez. C'est ce que vous avez fait.
Finalement, oui. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous diriez de ce Lourdes que vous nous décrivez? Au fond, il peut s'adresser à tout un chacun, quelqu'un qui n'a aucun prérequis, qui arrive tel qu'il est. Il n'entre pas dans un univers d'initié. Il va être touché, il peut être touché par ce qu'on appelle parfois la grâce de Lourdes.
Je pense qu'à Lourdes, il y a plusieurs entrées. Ceux qui sont à la recherche ou curieux du côté spectaculaire vont y trouver leur compte. Ceux qui sont à la recherche vraiment d'une dimension fraternelle, de partage vont aussi être touchés. Ceux qui sont touchés par les gestes, les bougies, l'eau, les processions, les gestes, le corps qui bouge beaucoup aussi. Je trouve qu'à Lourdes, finalement, c'est la personne entière qui est mobilisée. Ça peut être autant intellectuel parce qu'il y a des enseignements, ça peut être psychologique, émotionnel à travers le partage et le corps. Parce qu'à Lourdes, on peut bien marcher, le sanctuaire est assez grand, il y a des processions, il y a des gestes à faire. Donc je trouve que ces trois dimensions sont invoquées et donc peuvent permettre de rejoindre beaucoup de personnes, qu'elles soient dans une démarche intellectuelle ou pas, qu'elles soient dans un milieu populaire ou pas. Voilà, c'est un lieu, je pense, qui peut toucher beaucoup de personnes.
Y compris les jeunes.
Et y compris les jeunes,
tout à fait. Que vous amenez régulièrement à Lourdes.
Voilà, c'est ça. Et généralement, je ne fais pas que des retraites, des accompagnements qu'à Lourdes, mais je remarque qu'à Lourdes, c'est là où ils sont le plus touchés, de mon expérience.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, Guillaume-François Salin. Juste après la pause, nous reparlons là spécifiquement de ces deux ouvrages qui, je le disais en commençant, sont un peu votre expérience, mais pas que, s'adressent plus largement à tous ceux qui demandent le baptême, à aussi l'Église, les croyants. Que font-ils de ces demandes? Comment accompagnent-ils aujourd'hui? Et puis, pour ceux qui ont reçu le baptême et qui peuvent aussi avoir du mal à continuer dans une certaine constance et une durée sur ce qu'ils ont vécu de façon très intense par le baptême. Ces deux ouvrages sont parus aux éditions de l'Emmanuel. Nous en reparlons juste après ceci.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Nous recevons aujourd'hui l'auteur de ces deux ouvrages. Je vous les montre. Alors, l'un concerne ceux qui demandent le baptême et puis ceux qui ont reçu le baptême, comment continuer dans la foi du baptême. Merci Guillaume-François Salin d'être avec nous. Vous qui accompagnez de la jeunesse au sein d'un lycée, puisque vous êtes adjoint pastoral, dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Vous êtes aussi, vous avez aussi un cabinet où vous recevez des personnes pour les accompagner sur le plan psychologique, puisque vous êtes formé dans ce domaine. Et vous avez une formation en théologie. Votre histoire personnelle, c'est une conversion, j'ai envie de dire fulgurante, à Lourdes.
Oui.
Même si vous faisiez du chemin avant sur les questions spirituelles, et à 18 ans, quelque chose de bascule ici à Lourdes, en vous plongeant dans l'eau de la source, dans le bain aux piscines de Lourdes. Et 12 ans après, vous vous servez de Lourdes, j'emploie volontiers ce mot, comme vraiment un lieu qui peut annoncer la foi de façon simple, populaire, large.
C'est ça, tout à fait.
Et vous vous êtes aussi mis à écrire un peu l'expérience du baptême et puis l'expérience de l'après-baptême. Diriez-vous qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a 20 000 baptêmes d'adultes chaque année en France, l'Église catholique fait ce qu'il faut, est suffisamment réceptive, les catholiques ne sont-ils pas trop jargonnants, compliqués entre eux, tristes parfois, alors même que leur foi devrait les conduire à être joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est insuffisamment réceptif à ce mouvement de fond?
Alors,
demandes de baptême.
Oui, je distinguerai le fait d'être réceptif et est-ce qu'on fait ce qu'il faut. De mon avis, on ne fait pas ce qu'il faut. On en est très loin. Et je suis heureux de tout ce qui se passe, de ce qui est mis en œuvre. Je vois qu'il y a une vraie volonté, donc une vraie réceptivité du phénomène. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces deux ouvrages. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et qu'on n'est pas au rendez-vous de tout ce que l'on devrait faire. Alors ce sera jamais parfait, tout le monde a des limites, les paroisses font ce qu'elles peuvent. Il y a plein de gens engagés qui donnent toute leur vie, qui donnent beaucoup. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de travail et qu'il faut surtout pas se dire, et c'est ce que je dis partout où je témoigne, que c'est gagné, que c'est bon, qu'on fait ce qu'il faut. Je pense qu'on en est encore loin. Beaucoup de catéchumènes et de néophytes, du coup, donc ceux qui ont reçu le baptême, ne persévèrent pas dans la foi. C'est un constat largement partagé, peut-être pas partout, mais en tout cas c'est celui que j'entends le plus souvent, et malheureusement c'est un nombre assez conséquent. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut se réjouir, mais il ne faut pas se dire que c'est gagné, que tout est fait. On a encore beaucoup de travail au niveau pastoral, paroissial, diocésain et de l'Église en France en général. Parce que c'est un phénomène, je précise, c'est un phénomène plutôt français, américains et anglais. Les espagnols, italiens sont moins concernés parce qu'il y a encore beaucoup de baptêmes d'enfants. Donc c'est un phénomène en Occident, dans une part de l'Occident et particulièrement en France.
Qu'est-ce que vous diriez de ce paradoxe d'une église catholique minoritaire, voire ultra-minoritaire, hein, en France, aujourd'hui ?
Minoritaire, oui.
Moins de 10% de pratiquants. Et puis ces demandes de baptême, très conséquentes. Et puis, on ajouterait un contexte qui, pour une bonne partie, n'est pas très favorable à l'Église catholique, dû à ses égarements, ses erreurs, ses fautes, aussi. Tout cela est là, et pourtant, les gens frappent à la porte. Comment vous voyez-vous ça ? Est-ce que ça vous paraît de l'ordre du mystère, ou bien vous dites, moi je l'ai vécu
Alors pour moi, ce n'est pas que de l'ordre du mystère. Bien sûr, il y a toujours l'action de Dieu qui nous dépasse. Mais je pense qu'il y a des choses très concrètes. La première chose, c'est que par rapport à l'époque où moi je me suis fait baptiser, où il n'y avait pas encore beaucoup de catéchumènes, je crois que de mémoire, il y en avait quelque chose comme 2000, 3000 à l'époque où je me suis fait baptiser. C'est monté à plus de 10 000 en termes d'adultes, 21 000 en tout cette année, en 2026. C'est qu'en fait, moi à l'époque, j'entendais jamais parler du christianisme, sauf pour le critiquer. Sauf pour dire que c'est la pire horreur de l'histoire de l'humanité, vraiment, je n'exagère pas. Moi, j'avais un a priori très négatif envers les catholiques, et pourtant, ils ne m'ont jamais rien fait. Jamais un catholique m'a fait du mal. Jamais un catholique s'est mal comporté avec moi. Mais de manière très subtile, à travers les médias, les séries, les films, vous voyez, de manière très, très subtile, en fait, hein, il y a un anticatholicisme, et j'insiste, anticatholicisme, très prégnant, qui fait qu'en fait ça va chez beaucoup créer un anticatholicisme un peu primaire, un peu inconscient, qui est souvent pas conscientisé, hein. Et donc plus ce que vous avez dit, hein, des erreurs, hein, des manquements, hein, dans l'histoire de l'Église, hein, qui ont pu arriver, hein. Et alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Moi, ce que j'ai remarqué, après je suis devenu accompagnateur de catéchumènes, j'ai vu la première vague, et en fait ce qui s'est passé, c'est déjà l'après-Covid. Là, il y a eu une espèce de réaction d'après-Covid. La deuxième chose, c'est que par le biais des réseaux sociaux, des médias, on a entendu de plus en plus parler d'un catholicisme plus ouvert, plus direct, plus assumé. Moi, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, quand je cherchais une vidéo qui parlait du catholicisme et qui était grand public, qui n'était pas juste des catéchèses, c'était plutôt difficile, hein. Donc j'en trouvais pas beaucoup. Et là maintenant, à travers les médias, etc., ben, en fait on en entend parler et on entend un autre discours. Alors ce n'est pas les réseaux sociaux qui convertissent, c'est plutôt les réseaux sociaux permettent aux personnes d'entendre parler du christianisme sous un autre jour. Et après, c'est une expérience spirituelle qui va être en posant une bougie à l'église, en priant, en lisant le Nouveau Testament. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup plus du catholicisme, pas que en bien, mais on en parle aussi en bien plus qu'avant.
Ce livre, Pour toi qui demande le baptême, il s'adresse évidemment à des personnes qui sont dans cette recherche et cette demande, mais également à tous les catholiques.
Tout à fait.
Que ne font-ils pas qu'il faudrait qu'ils fassent ? Alors, sans être grand donneur de leçons, c'est pas
non,
ça le sujet.
De toute façon, je ne compte pas.
Mais tout de même, qu'est-ce qu'on fait de pas très bien, de pas très ajusté?
Alors, je m'inclus dedans et j'en parle dans l'ouvrage parce que maintenant je me considère pleinement catholique. Ça fait plus de 10 ans et donc ce que je décris dedans, en fait, je vais aussi me viser aussi parce que j'ai vu certains de mes comportements à moi. Et donc moi, je décris ce qui me semble 3 maladies spirituelles dans l'Église d'Occident qui sont dues à la fois à l'histoire. Il y a une histoire difficile. Voilà, la Révolution. Voilà, il y a un contexte historique difficile pour le catholicisme, des choses aussi dont elle est responsable, et donc voilà, les catholiques font ce qu'ils peuvent.
Mais ils sont héritiers de ça.
Et ils sont héritiers de ça, tout à fait. Et donc les 3 maladies spirituelles que je repère, qui vont beaucoup freiner les catholiques et sur lesquelles nous devons, par un souci de conversion, de travailler dessus. Le premier, ce serait la tiédeur, ce que j'appelle la tiédeur. Donc la tiédeur, c'est une maladie spirituelle qui est le manque de zèle, de motivation à faire le bien que l'on pourrait faire. Donc le bien, ce n'est pas que un acte de charité et des pauvres, etc., mais c'est aussi annoncer l'évangile, assumer sa foi, s'engager dans sa paroisse, vous voyez, des choses concrètes comme ça. Donc on sent en France, mais c'est pas que d'aujourd'hui, hein, c'est un vieux, ça fait déjà pas mal de temps que c'est inscrit, hein, une certaine mollesse, une certaine tiédeur. Mais parce que le catholicisme est tellement attaqué, il y a tellement de critiques, c'est tellement éprouvant d'être pleinement catholique.
Qu'on est en mode protection un peu.
Exactement. Protection, repli, retrait. Voilà, les personnes, voilà, au bout d'un moment, des fois, peuvent se protéger, en effet. Il peut y avoir aussi un manque de zèle, une certaine mollesse du fait du contexte. Donc ça, ce serait vraiment la première maladie que j'entends le plus des catéchumènes, où ils disent les catholiques sont mous. Il faut dire ce qui est en France, c'est assez mou en fait, hein, par rapport à d'autres pays. Alors les autres pays n'ont pas la même histoire. Vous voyez, c'est sûr que le catholicisme en Amérique latine n'a pas la même histoire que nous. Donc voilà. La deuxième, ce serait la mondanité. Parce que par mondanité, je vais plus loin qu'une classe sociale, même si aujourd'hui, le catholicisme, malheureusement, s'est beaucoup éloigné des classes populaires depuis les années d'après-guerre. Hein, il y a eu un éloignement progressif des classes populaires pour plein de raisons que j'aurais pas le temps d'aborder là. Je parlerai par mondanité plus largement d'un entre-soi, d'un enfermement. En fait, les catholiques, par protection, liés à cette tiédeur sûrement, restent entre soi, se protègent, ont les mêmes codes, les mêmes façons de parler, et sans s'en rendre compte, en fait. Et quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, en fait, si on n'adhère pas à ça ou qu'on est différent, et ben très discrètement, pas de manière frontale souvent, on va être mis de côté. Et ça, beaucoup de catholiques, enfin de catéchumènes me le témoignent trop souvent, qui sont mis de côté de manière
subjective. Et la dernière maladie
L'angélisme. C'est un discours déconnecté, non incarné. Alors, à Lourdes, je trouve que ce discours-là n'est pas présent. Hein. Je trouve pas ça angélique à Lourdes, c'est le contraire. Mais en tout cas, l'angélisme, ce serait une manière déconnectée de parler de la foi, non concrète. On dit pas les choses concrètement, on est sur des discours un peu perchés, un peu déconnectés. Et ça n'a rien à voir avec la profondeur. Les pères de l'Église peuvent être très profonds et en même temps très concrets. Quand on lit Augustin, ça peut être très profond, mais on comprend en fait, on sait de quoi il parle. Aujourd'hui, voilà, et je pense que ces discours un peu déconnectés peuvent être parce qu'il y a une peur de dire les choses concrètement, directement. Je donne un exemple. Un catéchumène, ça arrive souvent, hein, c'est pour ça que je donne cet exemple. Un catéchumène va demander de l'aide sur telle situation, et puis directement, on va dire, bah, il faut que tu discernes, prie l'Esprit Saint, il va t'aider. Alors oui, il faut discerner, oui, l'Esprit Saint va m'aider.
Il demande de l'aide.
Donc. Mais là, je demande une réponse concrète à une situation concrète. Donc est-ce qu'on peut avoir un discours voilà mobilisateur qui parle, quoi, qui soit concret?
Bon, merci pour votre franchise, Guillaume-François Salin. Et puis, une fois qu'on a reçu le baptême, parfois, on se décourage. On pense que la grâce du baptême va nous faire traverser toutes les difficultés. Et non. Et pas facile. Ça aussi, vous le décrivez à travers ce deuxième ouvrage, pour toi qui as reçu le baptême.
Tout à fait.
Il faut accepter qu'il y ait des parties de ce qu'on appelle du désert, où on voit pas trop où est l'horizon, enfin, c'est compliqué.
En soi, dans le baptême, on reçoit toutes les grâces nécessaires à notre salut. Mais il y a ce qu'on appelle les dispositions, c'est-à-dire est-ce que nous-mêmes, nous allons accueillir pleinement cette grâce? C'est-à-dire ce cadeau, cette énergie, cette force de Dieu. Et donc, il peut y avoir dans les moments de bas, dans les moments d'épreuve, nos dispositions, c'est-à-dire notre souhait de nous convertir davantage, qui va être freiné, qui va être remis en question. Et donc, en effet, il peut y avoir, et il y a très fréquemment, des moments de désert, des moments un peu de vide. Et puis surtout, on passe d'un accompagnement, d'un parcours où on est très accompagné, chouchouté, je dis le terme coucouné, hein, à en fait, maintenant, tu dois pleinement avoir une vie catholique, un peu ordinaire, plus ordinaire. Aussi, on a encore à beaucoup travailler sur l'après-catéchuménat. Voilà, il y a encore beaucoup de carences, hein, dans les paroisses sur l'après-catéchuménat. Donc, ce qu'on pourrait appeler le néophyta, c'est-à-dire l'accompagnement de ceux qui ont été baptisés. Je sais qu'il y a des paroisses qui mettent en place des choses intéressantes, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. Donc, et du fait du contexte ambiant où il est difficile d'être catholique, d'être pleinement catholique, tout ça va jouer.
C'est frustrant, mais nous ne pourrons pas aller beaucoup au-delà parce qu'il faut aller lire l'ouvrage, l'un qui est la démarche de la demande de baptême et puis l'autre qui est, une fois qu'on a reçu le baptême, eh bien, comment tenir et durer dans la foi. C'est très accessible et c'est même sur un mode épistolaire.
Tout à fait.
Vous vous adressez directement à exactement. Nous, à tout un chacun, cher ami, cher néophyte, cher catéchumène. Par une série de lettres, vous nous faites avancer vers toutes ces difficultés, ces joies, ces peines. ces errements. Merci beaucoup, Guillaume François Salin. Ces deux ouvrages, Pour toi qui demande le baptême, paru aux éditions de l'Emmanuel, Pour toi qui a reçu le baptême, même éditeur. On vous souhaite bon vent, bon retour chez vous, puis vous revenez.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape en visite au siège du PAM, le programme alimentaire mondial. Les mots 14 s'est élevé contre la marchandisation.